Bonsoir. Rencontre ce mercredi à Kinshasa entre Joseph Kabila et les patrons des grandes entreprises minières opérant en RDC au sujet du code minier révisé. Province de l'Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont causé une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou. C'est notamment dans les Baema Nord, Baema Bagourou, Baema Baniwangi, Endo, Okebo. Ce tableau sombre a été dressé dimanche dernier par des notables des entités attaquées. Selon sa source, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement des militaires FRDC dans la région. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Autour de cette table, nous avons Innocent Kaboukala, le journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir Guy.
Puis Gérard Elenga, journaliste politique. Bonsoir et puis Gérard Elenga.
Bonsoir Guy, bonsoir Innocent et bonsoir à tous nos auditeurs.
Et lui est au téléphone à partir de Bukavu, c'est Dona Moussema. Il est directeur de la radio communautaire Iriba FM, même étant de Bukavu, c'est qui vous. Bonsoir Dona Moussema.
Bonsoir Dimaté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capé.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, on voit comment les journaux quinois ont traité l'actualité de la semaine. On va donc écouter cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la rencontre mercredi entre le président Joseph Kabila et les patrons des entreprises minières opérant en RDC. D'après La Prospérité, les géants du secteur des mines sont sortis de cette rencontre avec des garanties que leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement. Au vu de la tournure qu'ont pris ces échanges qui ont duré environ 8 heures, l'avenir salue un compromis au goût d'une victoire pour le président Joseph Kabila et la RDC. Face aux 7 patrons des sociétés minières, Kabila n'a pas reculé, soutient de son côté Zoumeco. Le média en ligne spécialisé dans l'actualité économique de la RDC rappelle que les 7 patrons des entreprises minières s'étaient rendus chez le président Kabila pour obtenir la révision des dispositions du code minier relative à la fiscalité et la clause de stabilité. De l'avis de 7 sur 7.cd, c'est donc une fin de non-recevoir que le chef de l'État a réservé à la demande des opérateurs miniers de sursoir à la promulgation du nouveau code minier adopté en janvier au Parlement. Le potentiel part de son côté d'une rencontre au goût d'inachevé. Le quotidien rapporte que jusque tard mercredi au Palais de la Nation, les tractations entre le chef de l'État et les 7 grands patrons des mines congolaises tiraient toujours en longueur et les deux parties peinaient à trouver un accord, élève le confrère. Des contraintes corroborées par des informations reçues par Forum des As au terme de cette rencontre. D'après le quotidien, même si le code minier sera promulgué incessamment, rien n'est totalement perdu pour les opérateurs miniers qui s'opposent à cette nouvelle loi minière. Concernant le massacre d'une cinquantaine de personnes en Ituri la semaine dernière, Forum des As titre « La chef de la MONUSCO condamne des attaques ciblées contre des civils en Ituri ». Leïla Zerougui demeure gravement préoccupée par les actes de violence dans le territoire de Djougou qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis janvier dernier, écrit Forum des As. Politico.cd, dans le même sens, écrit à la une « La MONUSCO gravement préoccupée par les actes de violence en Ituri ». Terminons par cette bagarre impliquant 3 fonctionnaires de la primature lundi dernier dans les locaux du cabinet du Premier ministre. À la base de cette altercation, un conseiller également gendre du Premier ministre a été éconduit par le directeur de cabinet alors qu'il venait réclamer la signature de son ordre de mission et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les frais de voyage, explique pour sa part le potentiel. Mécontent de ne pas trouver gain de cause, le conseiller s'en est pris au dircap du chef du gouvernement avant d'être jeté dehors pendant qu'un autre membre du cabinet immortalisait la scène, relate le tabloïd, avant de déplorer le fait que la primature ait vécu une scène comme on en voit tous les jours dans les bistrots de Kinshasa entre des personnes sous l'effet de l'alcool.
Merci Alain Hirong. Un commentaire, Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. L'actualité a été abondante cette semaine. Quelle est celle que vous voulez commenter?
Oui, mais sur, dans toute cette actualité, bien qu'abondante, mais je n'ai pas entendu, mais je comprends, parce que c'est seulement hier. Moi, je suis un sportif, j'aime bien le sport. J'aurais souhaité plutôt commenter sur le tout puissant Mazembe avec une feuille de match, comme on le dit, qui nous a été mangée, parce que ce match n'a pas été retransmis à la radio-télévision nationale congolaise, pour des raisons non élucidé jusque-là. Et même pour se rattraper, bon, on a vu que le match de V-Club non plus n'avait pas été retransmis. Et quelle est l'explication? On ne sait pas trop, mais je veux dire quand même que ça fait partie d'une des équipes qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. J'aurais bien souhaité, en tout cas, que ce match soit retransmis pour le bonheur de nous autres supporters de cette grande équipe.
Puis Gérard Elenga, journaliste politique, c'est quoi l'actualité que vous voulez commenter?
Oui, merci Guy. Il faudrait peut-être ici dire que je vais commencer par l'actualité relative à cette immoralité politique au niveau de la primature. Mais il y a quand même un fait relativement banal qu'on semble ne pas faire mention, même nous au niveau de la presse ou des médias, mais qui commence à déranger Guy sérieusement la population. C'est le problème du refus catégorique des billets de 5000 francs. Donc vous allez vous rappeler que moi, par exemple, je fais partie de l'administration publique. C'est moi, nous avons été payés par les billets de 5000 francs à travers les banques commerciales qui sont ici. Mais les gens se permettent, les commerçants, les petits vendeurs, et même les Libanais, tous ces expatriés qui sont ici, refusent les billets de 5000 francs qui, du reste, ne sont pas ce qu'on appelle, pas rédacteur en chef, mais RC. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est des billets qui ont cours légal, n'est-ce pas?
Qui ont cours légal, mon cher confrère. Vous allez vous rappeler que une des expressions de la souveraineté d'un État, c'est sa monnaie. Voilà. Mais comment un gouvernement, un État peut imprimer la monnaie et des individus, une certaine catégorie sociale, refusent ces billets-là, comme ça.
Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'à un moment donné, on refusait et les billets de 5 000 et ceux
de 10 000. Et même de 20 000.
Voilà. Mais aujourd'hui, les 20 000 et les 10 000 sont consommés. Sans problème.
Les 5 000, on les refuse catégoriquement. C'est l'occasion d'interpeller ici, soit Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, soit Mutombo, qui est le gouverneur, de la Banque centrale, de tenir une conférence de presse et de dire que celui qui va refuser ces billets, s'il y a la police à côté, on le prend et vous allez voir que la situation va se régler. Et parce que lorsqu'on dit que non, il y a la non-existence de l'État, on interprète ça de toutes les manières, mais voilà des faits qui sont un peu là. Je reviens, deuxièmement, par rapport, je suis toujours dans le fait social rapidement, là également, j'ai raccompagné ma cousine qui était venue me voir, j'arrive sur, rond-point, j'arrive sur Éthiopie, et je vois les taxis de transport en commun ordinaire mettre 2 personnes devant et 4 derrière. Je pose la question au chauffeur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, oh non, la SECO connaît, c'est comme ça maintenant, la SECO connaît, c'est comme si la SECO était venue remplacer l'État congolais. Donc, 2 personnes devant, 4 derrière, je crois que ça ne va pas, Guy. Et si vraiment...
Des pratiques qui étaient décriées à l'époque.
Des pratiques qui étaient décriées, bannies par l'époque de Mouzé, mais qui, les gens, c'est les autorisent comme ça. Voilà, c'est vraiment déplorable.
Merci, Donald Moussema, directeur de la radio communautaire Yeriba FM, émettant de Bukavu Sud Kivu. Qu'est-ce qui domine l'actualité dans la ville de Bukavu aujourd'hui?
Je commençais à parler de du Tshikenge qui était lancé il y a plus ou moins 3 semaines par le gouverneur de province de Sud-Kivu, Claude Mugabo. C'était une campagne de sécurisation de la province de Sud-Kivu. Alors, à ce jour, hier, le gouverneur venait de faire le bilan. Il est satisfait de la diminution du taux d'insécurité en province de Sud-Kivu. Il a d'ailleurs à cette occasion traîné les policiers qui avaient des trains, vous vous rappelez, sur un bandit lors d'un choc à Ouvira, et il a aussi appelé à l'appropriation par toutes les couches sociales de la campagne d'utiliser les sécurités à province de Sud-Kivu. Notre actualité, c'est aussi hier, vous vous rappelez, c'était le 8 mars, la journée des droits de la femme au Sud-Kivu, c'est la méditation. Tous les mots, la pauvreté, la paupérisation, les viols et le chômage de leurs maris, de leurs enfants dont elles sont victimes. Bref, la journée du Bukavu n'a pas fait pour moi du tout mouche, ces femmes. Il faudrait plutôt une évaluation profonde sur la situation socio-politico-économique de la femme congolaise. Comment contraindre l'État congolais au respect de tout ce qu'il y a comme engagement vis-à-vis de la promotion de la femme?
Donald Moussema.
À côté de l'aspect, oui.
Oui, votre Allô? Ligne s'est détériorée. Écoutez, on vous rappelle, hein? La ligne n'est pas bonne en fait. On a du mal à vous écouter.
Ok, d'accord.
Ok, merci. Donc, ça nous permet de passer à notre premier thème de ce soir. Rencontre ce mercredi à Kinshasa entre Joseph Kabila et les patrons des grandes entreprises minières opérant en RDC au sujet du code minier révisé. Taxes et royalties sur les minerais congolais. Le chef de l'État convainc les opérateurs miniers du cuivre, cobalt et or à attendre la promulgation de la loi minière incessamment. Au terme des 8 heures de discussion au mercredi dernier au Palais de la Nation avec Joseph Kabila, le ministre congolais des Mines a rendu le compte. Le code minier sera promulgué et appliqué tel quel, a-t-il dit, mais de préciser également que l'application de ce code devra être accompagnée des règlements miniers après au moins 30 jours d'examen et traitement des préoccupations des miniers par une commission d'experts au cas par cas. On écoute Martin Kabouilou au micro de Jeff Ngoy.
Que fera-t-on de la fiscalité? Ça, nous attendons que le président de la République promulgue le code. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les miniers par filière, au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations. Nous allons examiner ces préoccupations parce que nous croyons que la solution après la promulgation du code minier sera trouvée dans le sein du règlement minier. Le code est une loi, mais qui sera aidée dans l'application par le règlement minier. Nous allons prendre les dispositions du code et nous les mettrons dans le règlement minier pour être appliquées. La loi ne peut pas être contredite, parce que le code sera d'application après le règlement minier, parce qu'il y a des dispositions qui seront à expliciter dans le règlement minier. 30 jours après, il n'y a plus de manœuvre pour le président de la République. La loi doit être promulguée telle qu'elle est.
Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa, le code minier sera promulgué et appliqué tel quel, mais l'application de ces codes devra être accompagnée d'un règlement minier. Voici les assurances de Joseph Kabila aux opérateurs miniers. Votre réaction?
D'abord, quand on prend les informations recoupées, on a comme l'impression que ce qui est dit, en fait, en termes de non-recul, parce que ici il y a un problème de bénéfice d'intérêt pour la nation, on a comme l'impression que Joseph Kabila est resté intransigeant et donc ça paraît une victoire pour la RDC et par conséquent, on pourrait espérer des lendemains meilleurs dans ces secteurs-là. Mais en même temps, il y a quand même, lorsqu'on vient de suivre le ministre, d'après ce qu'il vient de dire, on a comme l'impression que c'est...
Le ministre des Mines.
Le ministre des Mines, on a plus l'impression que c'est le fait que la loi traîne, que le président devrait impérativement la promulguer telle qu'elle et que les revendications des miniers pourront peut-être être rencontrées après examen lorsque cette loi-là sera d'application et que
il y aurait des mesures d'accompagnement.
Chacun déposera son dossier qu'on va étudier au cas par cas et on pourra éventuellement alléger là où ce serait peut-être possible pour que ces opérateurs retrouvent leur compte et avec raison que certains de nos confrères dans les journaux qui ont paru aujourd'hui ont parlé qu'il n'est pas tellement perdu hein, dans le sens, donc il y a encore de l'espoir pour ces miniers. Mais si les choses se présenteraient dans ce cas-là, cette manière-là, je crois qu'on pourrait encore craindre des choses parce que là on pourrait peut-être encore une fois de plus assister à des combines qui pourront ne pas être toujours bénéfiques au pays, ici en l'occurrence la population. Donc, je crois que il y a quand même des réserves qu'il faudra émettre et que, au-delà de tout ça, l'autre question qui est plus importante, c'est la question de la bonne gouvernance. Parce que on peut bien bénéficier de tout cela, mais qu'est-ce qu'on fera de cet argent? C'est la distribution qui pose aussi problème. Est-ce que cet argent profitera-t-il réellement au trésor pour que finalement, au niveau du budget national, qu'on puisse ressentir comme on l'a eu à l'époque, alors que la GKMIN était en deçà de pratiquement, c'est pour moi 800 tonnes l'année de production du cuivre, mais que la vie économique, on sentait la présence réelle de la GKMIN. Est-ce qu'on va arriver à ce
niveau-là? C'était le fleuron même de l'économie.
Oui. Alors, est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? C'est aussi des questions qu'on se pose. Mais alors, le plus important, donc, c'est qu'il faudrait que les gens arrivent à comprendre que autant les efforts sont fournis dans le sens de cette fois-ci, une bonne négociation, sinon les signaux qui nous sont envoyés par le président de la République, mais que le gouvernement soit à mesure de trouver des mécanismes, mais qui soient toujours bénéfiques à la population. Merci. Mais aussi et surtout la bonne gouvernance. C'est vraiment un élément capital pour pouvoir s'en féliciter. Pour l'instant, on croise encore les doigts.
Merci, Pierre-Gérard Elenga, journaliste politique. Peut-on dire que le chef de l'État a coupé la poire en deux, dans ce sens qu'il maintient les codes miniers dans les formats tels que adoptés au Parlement, mais promet aux miniers, n'est-ce pas, un règlement pour accompagner ces codes?
Merci Guy. Il faudrait dire à ce niveau que je dois d'abord rappeler ici la procédure constitutionnelle, si vous voulez, de la naissance et de l'évolution d'une loi. Et quand celle-ci vient du gouvernement, on parle du projet, et quand ça vient du Parlement, de l'une des deux chambres, on parle des propositions. Alors, ce code minier a suivi tout le processus normal, et maintenant, il est sur la table du président de la République. Et encore, faudrait-il rappeler ici que le délai de 15 jours est dépassé.
Voilà.
En principe, cette
logiquement, la loi devrait être déclarée,
oui, mise en application. Comme la RDC est championne en exception, là encore, c'est une autre exception. On dépasse le délai, et maintenant, les chefs des entreprises minières arrivent à Kinshasa pour essayer de revoir voir le chef de l'État pour qu'on revoie certaines dispositions. Voyez un peu, la RDC, c'est toujours dans ses habitudes par rapport à ses exceptionnalités. Je me pose la question, depuis tous ces temps, nous avons commencé à parler de ces codes miniers, ça fait très longtemps, je me rappelle bien, à travers les différentes émissions dans le média. Mais ces chefs d'entreprises minières, ils étaient où pour venir en dernière minute comme ça? Ils étaient où? Ça, c'est la grande question que l'on peut se poser aussi. Ils viennent en dernière minute et ils veulent négocier quelque chose qu'ils savent que c'est déjà quelque chose de perdu d'avance. Alors, je vais faire simple en deux mots que je vais utiliser, c'est-à-dire à travers ces codes miniers, l'État sort maintenant un peu plus gagnant dans le sens que il va se faire un peu plus d'argent, comme était en train de dire mon confrère Innocent ici. Mais le problème, c'est au-delà de ça, Guy, le problème de la bonne gouvernance. On peut bien s'en féliciter. On peut bien réserver une fin de non-recevoir aux chefs d'entreprise minière. On peut bien se dire qu'à travers les fiscs, on peut se faire encore un peu plus beaucoup de bénéfices pour que cet argent aille dans le trésor public. Nanga est en train de chercher l'argent pour les élections. Nous avons besoin d'argent pour beaucoup de choses, pour le développement du pays. Mais la bonne gouvernance pose problème. Le peu qu'on avait déjà avant là, ce peu qu'on recevait là, qu'est-ce qu'on en a fait avec? Aller là où se trouvent les mines, parce qu'ici à Kinshasa, il n'y a presque rien. Lorsqu'on parle des minerais, on voit tout juste la partie orientale du pays et avec d'autres provinces. Mais les populations qui participent dans ces exploitations, les populations qui sont sur place, Guy, ce sont des
populations environnantes, pauvres,
qui n'ont presque rien, qui n'ont presque pas d'école, qui n'ont presque pas de vraies formations hospitalières. Mais maintenant, l'État peut se féliciter pour dire qu'on se fera plus d'argent. Mais pour quel résultat, mon Dieu? C'est ça toute la problématique. On peut avoir plus. Dans le peu, vous n'avez pas su bien gérer. Il n'y avait pas bonne gouvernance. Vous pensez que même si on va vous donner beaucoup, surtout avec cette catégorie de politique qu'on a dans notre pays, ce sera se remplir les poches, s'acheter des maisons, avoir encore plus de femmes. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Oui, l'argent, oui, mais que la population se retrouve réellement dans les bénéfices qui seront tirés par rapport à ces exploitations minières.
Qu'on fasse une répartition équitable.
Une répartition équitable, cher Guy.
Dona Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant de Bukavu Sud. Vous êtes là, Dona? Allô, Dona?
Allô, bonjour, je suis en ligne.
Voilà. La réforme du code minier intervient au moment où le monde est dans une transition qui permet de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et dans ces processus, le cobalt va jouer un rôle important dans ce sens qu'il est indispensable, n'est-ce pas, pour le développement de la voiture électrique. Et Dona Moussema, compte tenu des enjeux que représentent ces minerais, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à cette levée des boucliers de la part de ces chefs, de ces présidents des multinationales?
Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut parler d'abord d'une réforme, étant donné que déjà le premier code n'avait pas même été respecté. Nous avons déjà un nouveau code minier aujourd'hui, mais apparemment le deuxième code ici semble ne pas tenir compte de tout ce qu'on voulait comme réforme. On a plutôt régressé par rapport même déjà au premier code. Donc, je veux par exemple rappeler que déjà, on a dit que l'exploitation artisanale devait être faite seulement par les nationaux. Mais nous qui sommes ici à l'est du pays, notamment, on sait que vous, beaucoup d'étrangers sont toujours présents dans des carrés miniers. On voit des Maliens, des Ghanéens. Donc, c'est déjà, à mon avis, une entorse par rapport déjà au premier code. Même le même premier code parle de comment on pouvait creuser, on ne pouvait pas dépasser 30 mètres de profondeur. Mais aujourd'hui, tout ça n'est pas respecté. Donc, à ce niveau-là, personnellement, je ne vois pas vraiment s'il y a eu innovation comme on pouvait le dire. Mais, étant donné que les enjeux du monde aujourd'hui, c'est vrai, c'est la question des mines, la question des minéraux et tout, ainsi de suite. Mais, c'est bien pour le pays si on peut gagner. Mais comme le disaient les confrères, il faut qu'on gagne et que ça puisse retombées sur nous positivement, donc qu'on puisse avoir des dividendes positifs, les retombées positives pour notre vie. C'est ici où toute la question de la bonne gouvernance, la question de la justice distributive, le tout doit vraiment nous profiter. Donc c'est bien tous ces enjeux là-bas, que le Congo soit aujourd'hui un grand pays qui produit presque tous les minéraux du monde, les coltans, les cobalt et tout, mais qu'est-ce que nous comme Congolais nous gagnons? Que gagne la pauvre population congolaise? Tous ces chômeurs, tous ces jeunes qui terminent et qui n'ont pas d'emploi, toutes ces femmes paupérisées, tous ces enfants qui ne vont pas à l'école. Est-ce que les dividendes, les retombées de tout ce qu'il y aura comme avantage par rapport à ce commerce qu'on pouvait faire, par exemple, du cobalt et tout, est-ce que nous allons en profiter? C'est ça, justement, la question, donc, de la bonne gouvernance. Voilà ce que moi, je pense personnellement. C'est bien pour le pays, mais encore une fois, nous faisons appel à la bonne foi des autorités congolaises. Parce que quand on se souvient qu'il y a 15 milliards de dollars qui sont toujours détournés chaque année et que nous sommes incapables d'organiser les élections aujourd'hui, vous voyez qu'il y a tout ça, on peut se poser plus d'une question. Donc, la question de la bonne gouvernance se pose toujours et ça doit toujours être au rendez-vous.
Oui, Inosa Kabukala, vous avez tous relevé, n'est-ce pas, la problématique de la bonne gouvernance. C'est toujours bon, n'est-ce pas, de transformer ces richesses. Mais ce qui importe, comme vous l'avez tous souligné, c'est que la population puisse bénéficier, n'est-ce pas, de ces richesses. Mais au-delà, il y a un enjeu économique important, dans ce sens que la RDC détient à elle seule, n'est-ce pas, les deux tiers des réserves mondiales de cobalt. Mais au-delà des enjeux économiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'enjeux politique?
Oui, alors ça, j'ai bien suivi bien des gens, hein, ils étaient un peu pessimistes, ils ont dit d'ailleurs que lorsque l'on a été voir le président de la République, certainement qu'il va céder, et ici, faisant allusion à la gestion actuelle en général du pays, on dit que bon voilà, puisque ce sont des grands patrons, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, les grands patrons, ce sont les propriétaires eux-mêmes, ils n'ont pas délégué, ils ont été là eux-mêmes, donc ils vont tellement peser pour que celui-ci recule, parce qu'en fait, comme tout le monde le sait.
On les considère même comme les faiseurs des rois.
Mais voilà, de façon générale, c'est voilà, le terme vient de même sortir, ce sont eux, par leur puissance financière, arrivent à créer tous ces dirigeants. Bon, je suis aussi de cet avis-là, mais je me pose toujours la question, mais est-ce que nous sommes une particularité? Non, mais je ne pense pas, parce que c'est vrai que nous détenons, nous sommes peut-être mieux cotés au niveau mondial, mais il y a d'autres nations aussi qui regorgent dans leur sein de minéraux, mais ces nations arrivent à s'imposer, arrivent à faire valoir leurs idées, leurs politiques, pour que finalement la population puisse bénéficier. Le cas de l'Afrique du Sud, c'est quand même aussi un pays sur le plan des mines, un pays qui a quand même des richesses minières, mais qui sait se défendre. Vous avez pas mal d'exemples en Afrique. Vous avez la Zambie à côté. Je ne dis pas que ce sont des pays hyper développés, mais ces pays démontrent à suffisance que au-delà de ces enjeux, il y a la possibilité d'exister en tant que nation par la force de leurs dirigeants. Donc c'est ainsi que, moi je dis, indépendamment de ces enjeux politiques, on a quand même la possibilité d'exister comme pays, comme population et comme dirigeant pour pouvoir faire face à cela et finalement arriver à nous imposer. Donc je ne pense pas que forcément cet enjeu politique au niveau international puisse avoir forcément un impact qui irait jusque à anéantir les énergies au niveau de nos dirigeants. Mais si c'est l'espère, c'est parce qu'en fait, comme disait tout à l'heure Pigeard, c'est qu'est-ce qu'ils ont derrière leur tête? Est-ce que c'est des gens qui pensent travailler pour la population et peuvent se laisser effectivement et être balayés par cette force d'enjeux politiques au niveau international?
Pijar Elenga, il faut reconnaître que c'est une première, hein. C'est vrai qu'il y a toujours des pressions, n'est-ce pas, qui ont toujours existé, mais c'est la première fois que les présidents des multinationales se déplacent en RDC pour solliciter une audience auprès du chef de l'État afin d'obtenir de sa part un réexamen d'un texte de loi. Et tout cela sur fond d'un tapage médiatique sans précédent.
Non, écoutez,
le monde entier en a parlé, tous les médias à travers le monde.
Oui, le monde entier en a parlé, mais moi je reste toujours dans ma logique nationaliste, parce que j'en ai marre, Guy, avec ces discours. La RDC, c'est un pays au potentiel, un pays riche avec beaucoup de potentialités. Mais écoutez, j'ai posé la question à ma mère qui a 60 ans aujourd'hui, elle peut être en tête de me suivre dans la ville de Bassankoussou maintenant. À 60 ans, ma mère n'a jamais vu de l'or, elle n'a jamais vu des diamants. Mais je me dis, mais tout ce qu'on nous a montré, appris à l'histoire, à l'école primaire, secondaire. Mais c'est quoi ce discours-là? On peut s'en féliciter, on peut se frotter les mains pour dire que nous avons 2/3 des réserves mondiales de colbert, comme vous avez dit. Mais nous en faisons quoi, mon Dieu? On peut avoir ça, mais qu'est-ce que nous en faisons? Le problème, c'est pas celui de rester dans cet éternel contraste que nous avons beaucoup de richesses avec des minéraux, mais une population pauvre, un pays très pauvre, où l'argent des élections, il n'y en a pas, les écoles, il n'y en a pas, la population souffre. Mais pourquoi ce discours-là? Les implications politiques.
Et puis, nous semblons nous réveiller aujourd'hui parce qu'on dit que de ces minéraux dépendront tous les véhicules.
Tous les véhicules, tous les prochains véhicules qui seront fabriqués. Non. Ça, ce sont des discours d'autosatisfaction. C'est à la limite même irresponsable. J'étais en train de suivre, à juste titre, on l'appelle chef coutumier des mines, le ministre des mines, Kabouloulou. Il parle de l'examen particulier de chacun de ces cas pour que le président promulgue d'abord le code minier. Mais ils sont là, lui par exemple, comme ministre des mines pendant 12 ans ou 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Nos mines, elles ont fait quoi pour le développement? Ils ont participé à quelle hauteur par rapport à notre budget, tout ça? Voyez un peu. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais par rapport aux implications politiques, oui. Mais moi, j'ai fait un peu mieux les propos d'Innocent quand il était en train de dire ça peut ne pas forcément influencer les enjeux, même si ses patrons se déplaçaient eux-mêmes. Je ne pense pas qu'ils vont venir pour dire que non, écoutez, bon, nous, Kabila, nous faisons ça. Si pas ça, on va soutenir Moïse ou Félix ou à faire cela. Non, moi, je crois qu'il faut être sérieux. Et sur ce point, il faut rester congolais. Il faut rester congolais et voir les intérêts du Congo avant tout. Là où les intérêts du Congo se retrouvent, on peut toujours y aller, peu importe la personne qui peut porter les flambeaux en ces moments-là. Donc ces implications politiques peuvent être là, mais ne peuvent pas forcément orienter les choses dans le sens que ces patrons des entreprises minières veulent. Non, le Congo est à nous et c'est d'abord nous. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là.
Donald Moussema, il n'y a pas que le cobalt qui est au centre du débat, il y a aussi le coltan, il y a le cuivre, le lithium, l'or, sans oublier l'uranium, qui vont être déterminants, n'est-ce pas, dans l'économie mondiale. Et comment la RDC, qui est un scandale géologique, pourrait, n'est-ce pas, capitaliser tous ses atouts? Vous avez suivi Innocent Kabukala, qui a estimé qu'il y a toujours possibilité de s'imposer. Il a même pris l'exemple de l'Afrique du Sud.
Voilà, depuis que nous sommes des tout petits enfants, on nous disait, on nous le chantait d'ailleurs, le Congo, le Zaïre, scandale géologique, je ne sais pas, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment vivre comme des personnes humaines sur cette terre. Mais malheureusement, il s'est toujours posé un problème de gestion. Donc je pense que nous avons un problème de l'homme congolais, un problème de l'homme qui doit être au centre de tout ce qu'on devrait faire comme action. Alors, comment la RDC pouvait ou pourrait négocier? Moi, je pense que c'est encore une fois ici question d'interpeller le dirigeant congolais. Parce que quand on négocie à genoux, on ne peut pas aussi gagner quelque chose. Donc, il est question au stade actuel que d'abord les dirigeants congolais puissent d'abord faire de bons projets, des projets dans lesquels le peuple congolais va se retrouver, et puis qu'on puisse être gagnant-gagnant des deux côtés. Deuxième chose aussi, je pense que les dirigeants congolais devraient aussi doubler de la bonne volonté et avoir vraiment pitié de la population congolaise, parce que on peut faire des projets, des bons projets, mais les dividendes seront toujours dilapidés dans les poches des individus et des gouvernants. Et c'est ça ce qui est un peu marrant par rapport à tout ce que nous déplorons comme politique congolaise. Mais en soi, c'est bien de parler du Congo comme cela, comme un pays qui regorge de beaucoup de minéraux, qui intéresse aujourd'hui tous les prédateurs de ce monde, mais nous, le Congolais, on n'en profite pas. Comment le Congolais devrait en profiter? C'est là maintenant où le gouvernement congolais devrait travailler, le ministre des Mines et tout ce qu'il y a comme personnalité autour de lui ou d'autres personnes, qu'il travaille, qu'il fasse des bons projets et qu'il fasse un suivi et que ça puisse nous revenir, nous, comme peuple congolais. Mais on n'y croit pas, parce que ce sont les pillards qui sont toujours au sommet de l'État congolais.
Oui, Innocent Kabukala, comment les Congolais pourraient profiter de tous ces atouts géologiques? Vous avez suivi la question que vient de poser Donald Moussema.
Mais pour en profiter, donc, le tout dépendra de la vision des gouvernants. Quelle est la vision qu'ils ont par rapport à quoi? Parce qu'on ne vient pas diriger un peuple pour rien. C'est sur base d'un programme que l'on vient. Alors, puisque je suis un dirigeant et je sais que dans notre pays, nous avons telle potentialité, alors comment est-ce que je peux faire? Cela dépendra de l'énergie que j'aurai et par rapport à la vision que je m'aurais fait pour pouvoir amener tout cela. Et à ce moment-là, la population pourrait se retrouver, parce que toute seule, la population ne fait rien, elle délègue. C'est pour cela que nous avons ces élections que nous réclamons de temps en temps, évidemment, qui ne sont pas une fin en soi pour que l'on puisse diriger, encore que il faut que les gens soient animés d'un bel esprit.
Pijar Elenga, il faut améliorer la gouvernance, n'est-ce pas, pour que ces minerais, l'exploitation de ces minerais puisse profiter aux populations congolaises.
Moi, je ne vais pas par quatre chemins, cher Guy. Il faut carrément changer ces dirigeants politiques. Ces dirigeants politiques qui ont échoué parce que ce sont eux. Ils ne nous ont pas donné satisfaction quant à ça. Vous allez voir que dans tout ce qui se passe là, les multinationales, les fameux patrons des entreprises minières, toutes ces coopérations multi ou bilatérales avec la RDC, tous, dans tout ça, les partenaires, entre guillemets, sont en train de gagner. Mais la plus perdante ou la personne qui ne gagne pas, c'est la population congolaise. Mais ça apparaît contradictoire, mon Dieu. Innocent était en train de le dire. Et je me dis qu'il faut voir les choses dans ce sens-là. La population doit toujours être canalisée par rapport à ses aspirations. Donc, ces aspirations doivent être canalisées par des leaders. Ces leaders, ce sont nos dirigeants et par conséquent nos dirigeants politiques qui doivent avoir une bonne vision, qui doivent aimer le Congo, mais non seulement aimer les richesses du Congo, mais ils n'aiment pas le Congo et ses habitants, si vous voulez, et sa population. Donc, ça paraît contradictoire. Toute la raison d'aller aux élections pour tuer politiquement, je ne cesse jamais de le dire, ces dirigeants qui ont échoué et qui sont venus en politique pour voir tout ce qui se passe à la primature là-bas, les gens se battent, chercher de l'argent pour se faire des jupes fumées, pour chercher des femmes, envoyer acheter des maisons en Europe, là c'est bon, mais quand il s'agit des intérêts de la population, il n'y a presque rien dans ce sens-là. Donc voilà comment il faut voir les choses par rapport à la canalisation des aspirations de la population qui doivent forcément, cher Guy, passer par les bons dirigeants politiques. Voilà.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, province de l'Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont causé une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou. C'est notamment dans les Baema Nord, Baema Baguru, Baema Baniwangi, Endo Okebo. Ce tableau sombre a été dressé dimanche dernier par des notables des entités attaquées. Selon son source, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement des militaires FRDC dans la région. Et pour savoir ce qui se passe ces derniers temps dans les territoires de Djougou, on va écouter cet entretien entre José Menga et Alain Urung.
Les attaques des villages se sont multipliées la semaine dernière dans le territoire de Djougou, ce territoire qui fait frontière au nord avec la ville de Bounia. 5 attaques entraînant mort d'hommes, incendies et pillages des villages, ainsi que déplacement des populations sont enregistrés dans un laps de temps. Tenez, dans la nuit de vendredi à samedi, 7 villages, dont Sala, Lita, Lognon, au groupement Mandro, dans la chefferie des Baema Banyuagi, située à moins de 20 km au nord de Bounia, ont été la cible de ces assaillants. Cela a continué jusqu'à dimanche dans l'avant-midi. Et puis dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours la semaine dernière, les localités de Tsatsaku, Upa, Tati et Lidjo, au groupement Toro en collectivité des Baema Baguru, ont fait les frais de ces mêmes assaillants. L'attaque la plus meurtrière de la semaine passée s'est déroulée dans la journée de jeudi. 3 villages du groupe Pandaura, chefferie des Baema Nord, ont subi la cruauté de ces bandits. Et donc, les décomptes macabres donnent plus de 50 personnes sauvagement tuées dans une cruauté innommable et principalement à l'aide d'armes blanches. Et parmi les personnes tuées, il y a un capitaine de FRDC, ça c'est pour la semaine dernière, des femmes, des vieillards et des enfants. Des villages rasés, d'autres vidés de leurs habitants, et des habitants donc qui affluent par milliers, soit vers Bounia, soit vers d'autres centres, soit encore vers l'Ouganda voisin. Il faut dire que ces chiffres viennent s'ajouter à ceux des semaines précédentes.
Merci à vous, José Deschartes Menga, Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Après plusieurs années d'accalmie dans l'Ituri, nous assistons à une résurgence, n'est-ce pas, de l'insécurité dans cette partie du pays. Insécurité causée par un groupe d'assaillants qui attaque, incendie et puis les villages et tue les populations civiles. Comment vous comprenez cette insécurité qui refait surface?
D'abord, sur cette partie de la RDC, alors, le conflit est souvent lié au conflit communautaire, de façon générale. Parce que vous avez, d'une part, les Aimants, les Lindous, d'autre part. Alors, sur ce fond-là, beaucoup de gens, avec des intentions malveillantes, se cachent. C'est comme ça que vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Les communautés s'affrontent-elles? Parce que généralement, c'est parce qu'on a besoin d'hériter, de prendre une partie de la terre qu'on estime peut-être beaucoup plus fertile que d'autres, ou pour peut-être paître ses bétails, ou encore c'est un cours d'eau qui passe par là, et qui les oppose le plus souvent. Et aussi, on connaît cette partie aussi de la RDC, regorge certains minéraux. On n'a jamais cité de l'or par là. Ça intéresse. Qui ça intéresse? De rebelles. Et des rebelles, c'est fait de nos compatriotes, mais également des étrangers qui viennent et qui viennent en soutien pour pouvoir s'y exploiter. Pourquoi on les exploite? Mais parce que simplement, notre pays, notre État ne se montre pas aussi autoritaire pour pouvoir sécuriser tout le monde. Parce qu'en fait, ces petits conflits peuvent être résolus comment? On l'a dit tout à l'heure, qu'il y a toujours ce problème des gens qui habitent dans des zones riches, mais qui sont pauvres. Mais pour que cette pauvreté soit éradiquée, il faut que le gouvernement s'implique. Il faut que le gouvernement arrive là, en construisant des écoles, par l'exploitation de ces minéraux. Il y a une rétrocession qui se fait, même si on attribue, par exemple, ces entreprises à des étrangers. Alors, c'est un travail qui n'est jamais fait par l'absence de l'autorité de l'État, par l'absence du gouvernement. Et par conséquent, les personnes qu'on ne sait toujours pas identifier, parce que c'est toujours on les appelle les assaillants, mais parce que c'est des termes génériques qu'on utilise, mais en réalité, c'est des personnes qui sont identifiées, c'est des gens, on sait que c'est des compatriotes, et puis il y a des étrangers qui viennent là pour des raisons purement économiques. Ils viennent profiter sur les pauvres villageois qui n'ont pas de défense, et en se basant sur leur conflit qui est déjà là, et ça leur sert de prétexte pour pouvoir s'aimer à ces zones. Mais alors que en réalité, ce qu'on recherche là-bas, c'est la survie par rapport à ces groupes armés.
Pierre Linga, journaliste politique, vous avez suivi Innocent Kaboukal, elle a commencé par relever cet aspect des choses. À l'instar de ceux qui sèment la mort à Beni, au Nord Kivu, les assaillants en Ituri ne sont toujours pas identifiés. Comment vous expliquez cette difficulté que la RDC a à pouvoir, n'est-ce pas, identifier? À Beni, ça fait plus de 2 ans qu'on massacre la population, mais jusque-là, on n'arrive pas à identifier ceux qui sont à la base de ça. Et ça fait maintenant un mois qu'en Ituri, ça ne marche pas. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais aujourd'hui, même les autorités politiques n'arrivent pas à identifier les assaillants. Comment vous expliquez cette difficulté que nous avons, nous, à pouvoir identifier les auteurs de ces actes?
Ouf. Guy, j'ai du mal. J'ai du mal pour mon pays. Quand je pense et je vois, je fais circuler mon esprit à travers le pays, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon Dieu? Qu'est-ce que les Congolais ont fait? On parle de la mort comme si c'était une banalité. 50 personnes sauvagement tuées comme si c'était des poules ou des chèvres, comme ça. Et même la question que vous posez, écoutez, on sait généralement que ça se passe souvent pour cette ancienne partie de la grande province orientale, devenue aujourd'hui la province d'Ituri. Les conflits sont souvent interethniques, communautaires, comme Innocent le disait. Et ça part sur de très petites choses qu'on peut facilement régler au niveau des chefs coutumiers, mais pour lesquels toujours ces immoraux politiciens tirent des ficelles. On sait que ce sont eux qui sont à la base de cette situation. Et c'est une véritable politique de l'occupation qu'on est en train de mettre sur place, et si les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est quoi cette histoire des assaillants non identifiés? Et que font nos services de renseignement? L'ANER, les services de renseignement au niveau de l'armée, de la police et tout ce que vous voulez. Des groupes de gens viennent et attaquent une série de villages. Ils tuent, les gens fuient en Ouganda, ailleurs. Les villages restent vides. Vous dites que ces gens-là sont des assaillants non identifiés. Non. On n'est pas des enfants. On ne peut pas continuer à jouer avec des Congolais comme ça. Ces gens-là, nous savons d'où ça vient. Principalement avec cette hypocrisie qui règne au niveau de la CIRGL. Les pays se disent des choses, ils viennent dans un sommet ici à Brazzaville, mais nous savons que pour nous le problème c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi qui sont derrière tout ça. Lorsque ces pauvres populations congolaises fouillent, qui viennent occuper les lits après? C'est la grande question. Vous avez suivi la question des vaches ici au niveau de Kwilu, de Kwango. Les vaches qui sont venues de Douge, on ne sait pas, qui sont arrivées là-bas par des gens dont qui ne savent pas parler le Lingala. Et la question, c'est justement ça. Est-ce que sommes-nous seulement sécurisés? Nos frontières sont-elles sécurisées? Qu'advient-il après le déplacement massif de nos compatriotes? Qui occupe ces villages-là? Ils occupent les villages, ils exploitent abusivement nos minerais, les richesses qui sont là, et après on vient ici pour se faire appeler ministre, député, tout ça ainsi de suite. Ces gens-là, nous sommes en train de les dénoncer, et nous prenons et la communauté international et la communauté nationale à témoin au regard de ça, parce qu'un jour ça va déboucher sur une situation qui va être immaîtrisable, ce que nous ne pouvons pas souhaiter, parce que les Congolais ne sont pas des animaux qu'il faut tuer comme on veut, comme ça, et on en parle comme si on venait de prendre un petit jus quelque part.
Merci Douna Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM émettant des Bukavu Sud Kivu. Le gouvernement a envoyé des militaires FRDC, des éléments de la police nationale, et plus de 1000 hommes supplémentaires sont déployés dans les seuls territoires des Djougou. Ce sont des policiers venus de Kinshasa, des FRDC venus de Gemena, d'autres hommes de la 31e brigade de Mambasa, et ça comptait les premiers escadrons partis des unités basées à Bounia. Mais on a l'impression que cette surmilitarisation n'arrive pas, n'est-ce pas, à dissuader ces assaillants.
Oui, justement, parce qu'on ne dira jamais, on répète, on répétera toujours, la première mission de tout un État, de tout État qui se respecte partout au monde, c'est d'abord la protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Un État incapable dans les conditions normales d'y arriver, je pense qu'il n'en est pas un et devrait sans aucune forme de procès démissionner. Alors, si nous revenons un peu à ce qui se passe en Ituri et à Bounia, revenons donc à la RDC, on va se rappeler que depuis la chute de Mobutu, il y a une insécurité grandissante dans ce pays. Partout au Kasaï, vous avez cité des endroits, Nord Kivu, Sud Kivu. Alors, des fois on se pose la question, est-ce que l'État congolais est vraiment réellement incapable d'endiguer toute cette insécurité grandissante dans le pays? Sinon, il y a beaucoup à douter par rapport à cela. On peut même penser que, par moment, il y a peut-être un peu de complicité, parce que je vois mal comment un État qui a des policiers, qui a vraiment des bataillons, qui a je ne sais pas des généraux, ne peut pas faire face à des groupes armés. Et pour le cas du Congo aujourd'hui, on sait combien les groupes armés pullulent dans le pays. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a incapacité, est-ce qu'il y a complicité, est-ce qu'il y a omission? Donc la politique de laisser les choses pourrir pour trouver un alibi pour ne pas organiser les élections. Il y a donc toutes ces questions-là qui sont posées. La mission est arrivée à Bounia, c'est vrai, mais est-ce que la mission a donné un message de compassion? Voilà, on bousille l'argent des contribuables congolais pour les frais d'émission. On arrive après les morts, on est là, on surmilitarise le lieu, mais en réalité, il n'y a pas de solution. Donc je pense la solution par rapport à tout ça devrait être, en tout cas, l'organisation des élections et le changement du régime, l'alternance au sommet du pays. Sinon, on dirait qu'il y aurait complicité même ou incapacité complicité. Donc, voilà.
Oui, Innocent Kabukala, un paradoxe, c'est là où on a déployé des forces de sécurité, que les populations se font tuer tous les jours. Bon, la solution c'est quoi? Vous avez suivi Douna Moussema qui pense qu'il faut organiser des élections. Est-ce que même ces élections-là pourraient être organisées dans ces conditions d'insécurité généralisée?
Oui, ça c'est déjà un problème. Je ne peux pas organiser les élections dans un contexte comme celui-là. Mais il faut dire que le changement est impératif. C'est la solution pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État à travers toute la RDC. Donc le changement s'impose. Il faut que nous ayons des dirigeants qui ont véritablement une vision et qui ont la conception de l'État. Parce que ce que nous avons aujourd'hui nous démontre à suffisance que les questions de l'État ne les intéressent pas. Mais par contre, les intérêts pour leurs poches passent au détriment donc de la population. Donc véritablement, il faut qu'il y ait un changement au niveau des autorités. Mais alors, ce changement peut arriver évidemment par les élections, c'est déjà un grand souhait. Mais encore qu'il faudrait créer des conditions pour que les élections alors les bonnes puissent se tenir et obtenir donc ce changement-là.
Merci Pierre-Gérard Elenga. Il faut pacifier l'Ituri ainsi que tout l'Est du pays. Comment faut-il procéder à votre avis?
Non, mais comment ça peut devenir une question de récurrence, une question à répétition? C'est manque de paix. On s'est dit, mais pourquoi ça? Et pourquoi ça? C'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, nous en appelons tous au changement. Nous voulons que les choses changent et qu'il y ait un vrai changement. Mais j'ai dit, au-delà de la vision, au-delà de tout ce qu'on peut avoir pour des bonnes idées par rapport au développement du pays, élections et consorts, mais moi j'ai dit, il faut trouver réellement des dirigeants, cher Guy, qui aiment réellement ces pays. On peut beau parler, on peut beau faire, mais quand on n'aime pas le Congo, On a des hypocrites, on a des gens qui ont d'autres agendas, on ne va que revenir dans cette situation. Pourquoi seulement quand on avance, on est près des élections, on se retrouve devant toutes ces situations? Ce qui est déplorable, je vois le jingle, c'est que l'émission est terminée. Si vous le permettez, je salue les auditeurs de l'Équateur en général et de la ville de Mbandaka et de Bassam Fousson en particulier, qui nous ont suivis lors de la dernière émission.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoï qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui a réalisé cette émission sous la supervision des Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.